Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre Homo, Jean-Jacques Hublin.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là nombreux aujourd'hui. Je me demandais si les frimas du mois de janvier n'allaient pas diminuer l'auditoire, mais apparemment, voilà, vous êtes courageux. Permettez-moi pour commencer de vous présenter tous mes voeux pour la nouvelle année 2026, qui va être une année un peu spéciale pour moi au Collège de France, en particulier parce que vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un projet d'exposition qui doit être inauguré fin avril sur la préhistoire, qui va s'appeler Préhistoire entre utopie et réalité. Donc, je vous laisse spéculer sur le contenu de l'exposition, mais je pense que ça sera une très très belle exposition. Enfin, en tout cas, ça mobilise beaucoup d'énergie dans l'établissement. Ici, au Collège de France, là, dans l'atrium et dans les pièces qui sont autour. Alors, c'est pas une exposition gigantesque, mais je pense qu'il y aura des choses originales et qu'on ne voit pas souvent qui seront exposées. Je pense que ça vous intéressera. Hein. C'est un regard un peu de côté sur la préhistoire, surtout sur la façon dont la préhistoire a été perçue par le public, la presse, les artistes, hein, depuis les débuts de la discipline au milieu du 19e siècle. Et donc, voilà, il y aura une confrontation un petit peu de la science et puis de la vision de la science, y compris par des auteurs de fiction ou des artistes plasticiens. Pour le cours de cette année, j'ai voulu vous parler de ce sujet, Sapiens remplace Néandertal. Alors j'ai l'impression que je vous ai déjà souvent parlé de ce sujet-là, mais en fait j'ai réalisé que je n'avais pas eu de cours, de cours longs spécifiquement sur ce sujet-là, du remplacement au-delà de Néandertal, hein, des espèces d'hominines archaïques qui ont peuplé l'ancien monde et qui ont été remplacées. Alors on verra ce qu'il faut mettre sous le terme de remplacer, parce que pas été complètement remplacé. On parlera donc de Sapiens, de son origine, de sa sortie d'Afrique, s'il est sorti d'Afrique, et puis de ce qui se passe pendant l'évolution de cette espèce en Eurasie avec les Néandertals, les Denisoviens, d'autres groupes archaïques, y compris en Afrique. Et puis les interactions entre tous ces groupes. Et puis ça se termine avec une seule espèce d'hominine sur Terre aujourd'hui, la nôtre. C'est un sujet que, d'abord, évidemment, qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, parce que j'ai travaillé sur les Néandertaliens et leur origine, sur l'origine des Sapiens, sur les interactions entre les deux groupes. Et puis surtout, il se trouve qu'au cours des dernières années, de la dernière décennie, il y a eu quand même beaucoup de résultats qui ont été publiés. Alors, pas tellement finalement du côté de la découverte d'hominines fossiles, mais beaucoup du côté de la paléogénétique, de la paléoprotéomique, et puis aussi de l'archéologie. Et dans le fond, on a ces dernières années, et encore très récemment, hein, en 2026, on a revisité cette période qui aujourd'hui apparaît comme une suite d'événements plus complexes que l'image qu'on avait de ce remplacement, une espèce de vague de sapiens qui déferlait sur l'Eurasie et qui absorbait ou remplaçait tout ce qu'elle trouvait devant elle. On sait que c'est une histoire plus compliquée que ça, et puis avec des retournements de situation dans l'interprétation en particulier des assemblages de pierres taillées qu'on trouve dans ces périodes-là. Donc on voit les choses de façon très différente aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous bénéficier de ces résultats. Le Collège de France, c'est l'enseignement de la science en train de se faire. Ben, voilà, on va parler de ce qui est en train de se faire. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'origine d'Homo sapiens. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur le processus d'émergence de notre espèce. Ça va plutôt être un cours historique, en fait, pour vous montrer comment, depuis le 19e siècle, et même un petit peu avant, on a imaginé, théorisé, modélisé l'émergence des hommes que l'on dit modernes. Et puis, la semaine prochaine, on fera la revue des autres acteurs qui sont en place à cette époque-là. Donc, on parlera de ce qu'on sait aujourd'hui sur l'origine des Néandertaliens, l'origine des Denisoviens. Est-ce qu'en Afrique, on a d'autres groupes que des Homo sapiens ? C'est ce qui va nous occuper. Et puis, on parlera ensuite du processus de sortie, enfin, d'émergence et de sortie d'Afrique de notre espèce. À la fin du mois de janvier, on va avoir un cours sur l'arrivée des Homo sapiens dans les moyennes latitudes de l'Eurasie. Et là, c'est sûrement le sujet sur lequel il y a eu le plus d'avancées au cours même des 2-3 dernières années, hein, avec des sites qui ont livré des résultats tout à fait surprenants. On parlera ensuite de la question de l'hybridation entre tous ces groupes, puisque c'est un sujet, vous le savez, qui occupe beaucoup les paléanthropologues. Et puis, pour le dernier cours, j'appréhende le dernier cours, on essaiera quand même de discuter un petit peu du pourquoi et du comment de ce remplacement, qui est quand même l'événement, de mon point de vue, l'événement le plus important de l'évolution humaine du dernier million d'années, et peut-être même de l'évolution des hominines tout court, puisque voilà, on a complètement changé de monde, passé d'un monde de diversité de ces hominines à un monde où une seule espèce a pris un peu le contrôle de la planète. Alors commençons donc par les modèles d'origine tels qu'on les a imaginés pour l'Homo sapiens. Alors d'abord, le terme d'Homo sapiens, je l'ai déjà évoqué dans des cours il y a quelques années de ça. Le terme d'Homo sapiens, c'est un terme qui a été proposé par le Carl Linné. Donc Carl Linné, c'est un naturaliste suédois, hein, qui vit à cheval sur la fin du XVIIIe siècle, excusez-moi, et qui compiler toutes sortes d'informations sur le monde vivant, il produit cet ouvrage, hein, qui s'appelle Systema Naturae en latin, où il fait la revue de toutes les espèces vivantes qu'on connaît à son époque. Et c'est un ouvrage très important à des tas de points de vue, en particulier parce que il propose un système de dénomination qui est encore utilisé aujourd'hui, qui est le système binominal. Chaque espèce est désignée par un nom latin. Donc c'est une dénomination qui est internationale, qui est acceptée par tous dans toutes les langues, avec un nom de genre et un nom d'espèce, hein, Homo sapiens. Homo, c'est le nom de genre avec une majuscule, sapiens, ça s'écrit avec une minuscule, c'est le nom d'espèce. Et il met en œuvre ce système. Alors ce système de dénomination des espèces lui-même prend place dans un système d'emboîtement successif de familles, d'ordres, de classes, enfin bref, tout un système de classification qui est, encore une fois, vraiment le système encore utilisé aujourd'hui pour la classification des espèces, même s'il est critiqué par certains. Et puis alors, dans cette classification, donc, il introduit l'homme, et il introduit l'homme au sein des primates, ce qui n'est pas complètement anodin, parce que si on se replace au XVIIIe siècle, le fait que l'homme soit, j'allais dire, un animal comme les autres, c'est pas vraiment universellement accepté, et surtout qu'il est au sein des mammifères un proche parent des singes, c'est quelque chose qui est en fait assez révolutionnaire. Et donc ce terme, il commence à être utilisé hein, à ce moment-là, mais il faut bien comprendre que dès l'époque, on se pose quand même beaucoup de questions sur la signification, l'origine de la diversité des hommes actuels. Donc on reconnaît des races humaines, alors je mets tout ça entre guillemets, hein, puisque on sait aujourd'hui que ces divisions sont assez problématiques. Il n'y a pas de division des humains actuels en groupes qui seraient reconnaissables, identifiables, et qui seraient des groupes discrets, séparés les uns des autres. Il y a un continuum de population, mais enfin, à l'époque, on y croit. Et donc, l'inné va en fait créer des, à l'intérieur de cet Homo sapiens, des sous-espèces ou des espèces hein, qui correspondent à ce que lui considère comme des races bien, bien séparées. Donc vous voyez la liste des dénominations qu'il a créées. Donc il y a des homo affaires, Europaeus, Americanus, Asiaticus, avec des caractéristiques qui sont à la fois des caractéristiques physiques, alors évidemment la couleur de la peau, les Africains ils sont noirs, les Asiatiques ils sont jaunes entre guillemets, etc. etc. Mais vous voyez qu'il y a aussi des caractères comportementaux, psychologiques, d'ailleurs un peu embarrassants vis-à-vis de tous ces gens-là, hein, puisque vous voyez par exemple les Homo sapiens americanus, lui, il est colérique. Hein, mais l'Européen, il est sanguin, c'est pas terrible non plus. Les Noirs sont flegmatiques. Et les Jaunes sont mélancoliques. Et puis alors, à côté de ces variétés d'hommes actuels, donc qui sont... qu'à l'époque on identifie comme des races, il liste aussi des espèces qui sont des espèces en fait imaginaires, hein, parce qu'on n'a pas vraiment des éléments très concrets pour ça. Alors il reconnaît des hommes sauvages, alors ça recoupe plus ou moins les enfants sauvages qu'on connaît à l'époque, mais aussi des espèces sauvages d'hommes mal identifiés, donc cet Homo ferus. Aussi un homo monstruosis, hein, avec des géants, des nains, enfin tout ça évidemment. Et puis un homo troglodytes qui comprend aussi une variété nocturne et sylvestre. Et vous avez quand même des représentations telles qu'on se les fait à l'époque, hein, de ces hommes sauvages, velus, etc., qui ont eu une grande présence dans la... pour les naturalistes jusqu'au XIXe siècle. Alors, en fait, il faut attendre un anthropologue, enfin, un des fondateurs de l'anthropologie qui s'appelle Johann Friedrich Blumenbach, et qui, lui, va quand même... Alors, Blumenbach, c'est un pionnier de la craniométrie, hein, c'est quelqu'un qui va développer des techniques pour mesurer les variations humaines, en particulier les variations du crâne. Et lui, quand même, il met un peu les pieds dans le plat, Blumenbach, en disant « bon, tout ça, c'est bien gentil, ces histoires d'hommes sauvages, d'hommes velus, d'hommes nocturnes, mais ça n'existe pas vraiment. » Et donc, Blumenbach, lui, propose que, en fait, tous les humains actuels, en tout cas tous ceux qu'on connaît à l'époque, doivent être rangés dans une seule espèce, donc Homo sapiens, et bon, on n'a pas vraiment décollé de ça depuis. Mais enfin, encore une fois, ces gens-là sont quand même très imprégnés de raciologie, et c'est quelque chose qui va parcourir tout le XIXe siècle, dans le fond, l'étude scientifique de la variété, de la variation humaine, des variétés humaines, c'est comme pour le reste des sciences naturelles, surtout de la classification, on essaie de mettre dans des boîtes des différents types. Donc Bloom et Bard, de ce point de vue-là, ne diffèrent pas des autres. Cette histoire de diversité humaine, en fait, c'est un problème qui remonte bien plus loin dans le temps que les travaux de Linné ou de Bloom et Bard. Parce qu'en fait, depuis longtemps, avant même qu'on ait forgé l'anthropologie physique comme une science, on se pose la question de l'origine de cette diversité humaine. Et disons que déjà au cours du XVIIIe siècle, on a des débats qui sont des débats assez intenses entre... C'est un débat... pas uniquement scientifique, hein, c'est un débat qui a une dimension aussi philosophique et religieuse même. Donc un débat entre des gens qui sont des monogénistes et des polygénistes. Encore une fois, on ne parle pas vraiment de science à proprement parler, c'est une forme de spéculation. Et donc, les monogénistes, ce n'est pas compliqué, ce sont des gens qui pensent que tous les hommes actuels ont une descendance, une origine commune. Et évidemment, pour les gens qui adoptent, qui croient dans le dogme chrétien, dans le dogme religieux, il n'y a pas tellement de questions à se poser, hein. La Bible est particulièrement claire sur la question. Donc, il y a non seulement une origine commune de tous les hommes, mais on connaît même le nom du papa et de la maman de tous les hommes. Alors ces monogénistes, c'est donc plutôt des gens qui sont plutôt des conservateurs, des gens qui sont attachés aux dogmes religieux et qui, dans le fond, voient on parle pas d'évolution à l'époque, mais l'histoire de l'humanité comme le déroulement, la suite de ce qui est raconté dans la Bible. Et puis à cela s'opposent des gens qui commencent à dire « Mais attendez, il y a une très très grande diversité des humains. » En plus, je parlais de raciologie, on peut parler aussi de racisme. Hein, donc il y a quand même pas mal de gens qui disent « C'est quand même pas possible que tous ces gens qui habitent d'autres continents, qui sont quand même un peu bizarres, ils aient la même origine que nous. » Et donc, on imagine une origine différente pour toutes ces races qu'on a cru reconnaître dans le monde. Et quand je dis une origine différente, c'est une origine au sein d'espèces différentes de l'Homo sapiens. Donc, on imagine que, par exemple, des primates, des singes ont pu donner naissance à des sortes d'hommes un peu différents des Européens, évidemment, sur d'autres continents. Alors aujourd'hui, ça nous paraît complètement baroque et même d'ailleurs un petit peu problématique du point de vue éthique. Mais il faut bien comprendre que à la fin du XVIIIe siècle et pendant une grande partie du XIXe siècle, tout le XIXe siècle, ces polygénistes, ce sont les progressistes en fait. Hein. On va le voir à la fin du XIXe siècle, c'est la gauche, si vous voulez, qui est polygéniste, hein, et les cathos de droite, eux, ils sont monogénistes. Hein. Donc, un exemple de polygénisme absolument échevelé, c'est Voltaire. Et Voltaire, lui, il pense que la religion est une calamité. Et donc, j'allais dire, il est naturellement porté au polygénisme. Alors, je vous renvoie, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet sur diverses citations assez terribles, pour ne pas dire horribles, de Voltaire sur ce qu'il pense des gens qui vivent sur d'autres continents. Mais pour lui, c'est j'ai mis une de ces citations-là, il dit « Dans 100 ans, on ne parlera plus de la Bible ». elle aura disparu. Donc toutes ces histoires d'Adam et Ève, de monogénisme, c'est vraiment de la rigolade, et on n'en parlera plus. Et donc ça, c'est le, j'allais dire, le la position dans laquelle, dans le fond, le monde scientifique, le monde qui croit dans le progrès, va s'engager. Et à la fin du 19e siècle, on a le développement de l'anthropologie, qu'on appelle à l'époque l'anthropologie physique, encore que à cette époque-là, il y a une volonté d'intégrer des aspects physiques, biologiques, et puis des aspects comportementaux, des aspects culturels. On a la première société d'anthropologie qui est créée à Paris par Paul Broca en 1859. Et puis à Londres, on a une société qui s'appelle Anthropological Society of London, qui est le pendant de la Société d'anthropologie de Paris, avec, encore une fois, une prédominance de ces considérations, entre guillemets, progressistes et polygénistes, et même, franchement, racistes dans de nombreux cas. Alors, il y a quand même des gens qui font de la résistance, si je peux dire. Voilà un anthropologue français de la fin du 19e siècle. On va en reparler tout à l'heure parce qu'il a été impliqué dans la description de certaines découvertes de fossiles humains. Mais Quatrefages, voilà, c'est quelqu'un qui est, lui, qui est pour le coup, qui est monogéniste et qui s'oppose à ces polygénistes. Encore une fois, il est monogéniste surtout parce que, du point de vue philosophique et politique même, il est plutôt conservateur, il est attaché à sa foi chrétienne, et donc pour lui, la source biblique est difficilement contestable. Alors on trouve au sein des monogénistes, on va trouver quelqu'un qui est, en fait, lui quand même, non seulement un progressiste, mais même un révolutionnaire, qui est Darwin. Et Darwin, dans La descendance de l'homme en 1871, s'exprime sur la question de l'évolution humaine. C'était bien gardé de parler d'évolution humaine dans l'origine des espèces. Il savait bien que c'était un sujet un peu problématique. En plus, ça fâchait sa femme. Donc il avait un peu éludé la question. Mais en gros, il dit assez clairement dans la descendance de l'homme en 1871 qu'il n'y a pas plusieurs espèces humaines actuelles, et que cette opposition entre monogéniste et polygéniste n'a pas vraiment lieu de tenir place. Et lui, il se range clairement du côté d'une origine commune à tous les hommes. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, il place cette origine en Afrique, donc une espèce de prémonition, puisque en fait, honnêtement, en 1871, on a absolument zéro fossile en Afrique, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe, mais il imagine une origine africaine des humains, ou de leurs ancêtres très lointains, essentiellement à cause de la proximité que lui voit entre les grands singes africains, le chimpanzé, le gorille, et puis les humains. Et donc, il pense que les formes ancestrales des humains ont dû évoluer en Afrique. Alors, une bonne partie des supporters de Darwin se rangent donc finalement du côté du monogénisme, et ce qu'on va appeler plus tard le monocentrisme. Et en particulier, c'est le cas de Thomas Huxley en Angleterre. Vous savez, Huxley, c'est le naturaliste qui a été, je crois qu'on l'a nommé le bulldog de Darwin. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui défendait très ardemment les idées de Darwin. C'est intéressant, hein, parce que la famille Huxley, c'est une dynastie de gens. Donc, il va y avoir, dans la descendance d'Huxley, il va y avoir un généticien très connu au début du XXe siècle qui va s'appeler Huxley. Et puis, le Aldous Huxley du meilleur des mondes, hein, c'est la descendance hein, d'Huxley. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette famille s'est toujours intéressée à la question de l'évolution humaine passée, mais aussi future. Alors, parmi ses supporters de Darwin, il y en a un qui a en Allemagne, à Iéna, et qui s'appelle Ernst Haeckel. Si vous allez un jour à Iéna, on vous parlera beaucoup de la bataille célèbre hein, et de Napoléon. Certains restaurants vous servent un plat avec des petits drapeaux français plantés dedans, ce qui montre que les Allemands ne sont pas si rancuniers que ça, finalement. Mais il y a vraiment quelque chose à visiter absolument à Iéna, c'est le musée de Haeckel, Ernst Haeckel, avec ses collections, c'est sa maison en fait, hein, où il a habité, qui est vraiment un endroit extraordinaire. Alors Haeckel, c'est un naturaliste de génie, hein, il a balayé tout un tas de domaines de la biologie. Il a créé une quantité inouïe d'espèces, en particulier d'organismes marins. Il s'est beaucoup intéressé aux micro-organismes marins. Il y a des publications magnifiques de Haeckel avec des planches en couleur où il montre les radiolaires, les diatomées, toutes sortes de choses. C'est vraiment l'époque des grandes expéditions où on part en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs pour récolter des tas d'échantillons. Donc là, le voilà dans une mise en scène assez amusante avec son assistant qui s'appelait Nikolai Mikuho Maklai aux îles Canaries en 1866. Donc, il se promène de par le monde et il crée des milliers d'espèces, je vous ai dit en particulier d'organismes marins. Et alors, Haeckel a pris parti pour Darwin, à une époque où les idées de Darwin sont quand même assez combattues par certains. Alors, il a pris parti, si je peux dire, pour l'évolution humaine. Alors maintenant, en ce qui concerne l'origine des humains, là, il a des idées quand même qui sont un petit peu différentes de celles de Darwin. C'est difficile de dire si Haeckel est un monogéniste ou un polygéniste, parce que en fait, il est très influencé par un ami linguiste qu'il a à Iéna, qui s'appelle August Schleicher. Et Schleicher a toute une théorie sur l'apparition des langues parlées par les hommes. Et donc Schleicher, il pense que en fait le langage est apparu chez des formes assez primitives de primates, et que ces primates, il parle de Urmenschen, vont évoluer dans différentes parties du monde pour donner des hommes véritables. Et donc, on parle de formes qui sont muettes, qui vont se mettre à parler et qui deviennent des hommes. Donc, c'est quand même assez fortement teinté de polygénisme. Et sur des arguments qui sont en partie des arguments... Alors, un petit peu comme Darwin, qui voyait une parenté entre l'homme et les grands sages africains, Haeckel, lui, voit plutôt une parenté avec des primates asiatiques, les orang-outans, les gibbons. C'est lié à des considérations sur le développement embryonnaire. Enfin bref, il a des idées assez marquées là-dessus. Et alors, avec Schleicher, ils imaginent un continent englouti qu'on voit là apparaître sur le... Vous voyez, il y a une tache grise sur l'océan Indien où il est indiqué paradis et aussi Lemuria. Et donc, ce continent englouti, c'est le continent où serait apparu l'ancêtre de toutes ces formes. De Urmenschen, qui, vous voyez, ont peuplé toute la planète et puis ont donné des races et des, comment dire, des langues différentes. Alors, pareil, hein, et qu'elle s'inscrit quand même dans cette vision assez raciste de l'époque. Donc lui, il distingue une dizaine de races humaines. En gros, il place la race caucasienne, enfin européenne, au sommet de cette pyramide de races. Et il pense que toutes les autres sont très primitives, d'ailleurs qu'elles sont vouées à disparaître tôt ou tard. Pendant que donc, toutes ces spéculations sur l'origine des hommes actuels se développent, au milieu du XIXe siècle, on va rentrer dans l'ère des fossiles humains, et donc on va commencer à trouver des humains fossiles. Donc 1856, c'est la découverte du premier homme de Néandertal reconnu comme tel, mais en fait, on avait déjà trouvé des restes d'hommes de Néandertal en Belgique en 1830, à Gibraltar, c'est celui qui est représenté sur cette photo en 1848. Et donc, la difficulté à partir de ce moment-là, ça va être, au-delà de ces débats sur polygénisme, monogénisme, pour expliquer la diversité des hommes actuels, d'intégrer ces fossiles, d'intégrer l'homme de Néandertal et puis d'autres qu'on va trouver. On va trouver les premiers Homo erectus à la fin du 19e siècle. Et donc, on va avoir cette difficulté supplémentaire. Et de fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on se met à trouver des vestiges humains qu'on va essayer d'intégrer dans ces schémas. Ce n'est pas tant qu'on cherche des fossiles humains. Alors, dans le cas de l'Homo erectus, Dubois, qui est le découvreur des premiers Homo erectus en Indonésie, lui était vraiment parti là-bas avec en tête l'idée de trouver le chaînon manquant. Mais surtout, ce qui se passe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est qu'avec l'apparition de la préhistoire et l'engouement auprès du public, du public éduqué, hein, de ce monde, dans le fond, qu'on avait complètement ignoré jusqu'à présent, il va y avoir une véritable... on peut appeler ça une ruée vers l'os, hein, une ruée vers le silex, mais on a, en gros, dans tous les villages d'Europe, des instituteurs, des curés, des médecins qui vont le dimanche avec leurs enfants ou les enfants des autres faire des trous dans les grottes qui sont là-bas derrière le moulin, derrière l'église. Et donc il y a même une forme de pillage absolument invraisemblable qui se développe avec des fouilles généralement faites un peu n'importe comment. Et qui vont donc mettre à jour des quantités incroyables de silex, hein, dont les collections, les musées sont remplis de ces collections qui, en grande partie, sont découvertes à cette époque-là. Et donc, pendant toutes ces fouilles un petit peu plus ou moins sauvages, qui sont menées par des amateurs, hein, il n'y a pas vraiment de professionnels à l'époque, on va trouver... des restes humains. Alors, je vous ai parlé de l'homme de Néandertal. On va en trouver en Belgique. Peu à peu, cette idée d'homme de Néandertal va être acceptée. Mais on va trouver aussi des restes d'Homo sapiens qu'on va essayer de raccrocher à cette classification des races que l'on a établie au XIXe siècle. Alors, la première de ces découvertes, c'est une découverte qui a lieu en Dordogne, pas très loin du village des Ézis, et c'est la découverte de ce fameux homme de Cro-Magnon. Alors, Cro-Magnon, c'est un endroit, c'est un abri sous roche, et cet abri sous roche, il va être éventré par des travaux qui se sont en cours le long d'une, d'une voie de chemin de fer entre Périgueux et Agen, donc près des Aisies. Donc la voie de chemin de fer a été inaugurée en 1863, mais quelques années plus tard, on veut, le long de cette voie de chemin de fer, créer une route. Et c'est au cours de ces travaux que, vous le voyez sur le côté gauche de cette vieille gravure, eh bien, les ouvriers vont taper, si je peux dire, dans ce, le remplissage de cet abri. Donc, il y a des, comment dire, des gens que la préhistoire intéresse beaucoup, en particulier Lartet, qui est un géologue et qui est subventionné par un riche mécène anglais qui s'appelle Christie. Donc, Lartet et Christie sont déjà dans le Périgord depuis un petit moment à faire des fouilles. Et ils vont, donc, on va s'intéresser beaucoup à cet abri de Cro-Magnon, dans lequel on trouve. Alors, vous avez sûrement vu ce crâne déjà, il est au Musée de l'Homme à Paris. C'est le crâne numéro 1. En fait, ce qu'on trouve à Cro-Magnon, ce n'est pas juste un crâne, ce sont plusieurs squelettes de plusieurs individus et qui ont l'air d'être dans des sépultures associées avec du matériel archéologique et pas seulement des outils de pierre taillée, mais aussi des objets de parure comme ces coquillages que vous voyez à droite. Et cette découverte de Cro-Magnon va donner lieu à toute une polémique à l'époque, une controverse entre des gens qui disent ben voilà, c'est l'artisan des industries de ce qu'on appelait à l'époque l'âge du renne, enfin en gros le paléolithique supérieur, ce qu'on appellerait aujourd'hui du paléolithique supérieur, et puis des gens qui sont assez farouchement opposés à cette interprétation, en particulier un des pères fondateurs de la chronologie paléolithique, qui est Gabriel de Mortillet, qui est vraiment un personnage central de la préhistoire à la fin du XIXe siècle. Alors je reviens sur ces considérations un peu politico-idéologiques, mais Mortillet, c'est un anticlérical absolument farouche. Hein. Il s'est fait élire député de Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il travaille ce qui est aujourd'hui le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. C'est la France insoumise, hein, Mortillet. Hein, c'est même l'aile gauche de la France insoumise. D'ailleurs, il s'est fait élire une fois, il n'a pas été réélu. Hein. Et il a vraiment des idées assez radicales, et il est très... donc pour lui, ces histoires de sépultures, d'objets de parure, de choses comme ça, ça ne colle pas avec l'image qui se fait de la préhistoire paléolithique. Et donc, en gros, il croit que ce sont des choses beaucoup plus récentes, néolithiques. Et il va combattre, en fait, cette découverte de Cro-Magnon. Il va falloir attendre, je crois que c'est 1871 ou 72, pour qu'on trouve un autre squelette dans un site voisin à Laugerie. Alors là, on fait attention, on ne raconte pas que c'est une sépulture, hein, on dit que c'est quelqu'un qui a été écrasé par un rocher, etc. Donc là, on finit quand même par accepter cette idée que, associée à ces industries qu'on appelle à l'époque l'industrie de l'âge du renne, on a des sapiens qui ressemblent beaucoup aux sapiens actuels. Alors, on sait aujourd'hui que ces formes d'Homo sapiens, de Cro-Magnon, elles sont en fait gravétiennes. Elles ont été datées. Alors, ce qu'on a daté, en fait, sont les coquillages. Il y a des centaines de coquillages qui ont été trouvés dans ces sépultures. Et donc, on les a datés à un peu plus de 27 000 ans. Et donc, c'est du gravétien, ce qu'on appelle du gravétien ancien ou du gravétien moyen. On a longtemps cru que c'était l'aurignacien. Enfin bref, il y a eu tout un débat aussi sur l'âge de ces fossiles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, sitôt que cet homme de Cro-Magnon, il est, si je peux dire, incorporé dans le paysage paléolithique, on va reconnaître chez lui l'origine des Européens modernes. Donc, c'est l'origine... C'est la race blanche primitive, hein, l'homme de Cro-Magnon. Et donc, on va, à partir de ce moment-là, faire rentrer dans cette classification raciologique différentes découvertes dans du paléolithique supérieur en Europe. Alors, il y a une autre découverte qui a lieu une vingtaine d'années après dans un site qui s'appelle Chancelade, et toujours en Dordogne. Et donc, à Chancelade, on trouve un squelette, enfin, toujours une sépulture, d'un homme assez âgé. Alors là, on est un petit peu plus tard en termes de chronologie. On est dans du Magdalénien ancien, donc vers 17 000, 15 000. Et alors, ce squelette de Chancelade, on va lui reconnaître des caractères un peu bizarres. On trouve qu'il a la face assez aplatie, il est de petite taille, il a des proportions corporelles qu'on interprète comme une adaptation au froid. Et donc, on va en faire, en fait, alors je vous parlais tout à l'heure de quatre phages qui étaient monogénistes. Donc, quatre phages et amis. Produisent des publications sur toutes ces formes fossiles humaines. Et donc, quatre phages amis, relayés par d'autres auteurs, vont reconnaître cet homme de Chancelade comme l'origine des Inuits. Alors, on ne disait pas les Inuits à l'époque, on disait les Esquimaux, mais c'est pareil. Donc, pour ces gens-là, c'est l'origine des Esquimaux. Donc, c'est assez chouette parce qu'en Dordogne, on a et l'origine des Blancs, on a l'origine des Esquimaux, et vous allez voir, c'est pas... Alors, je vous mets une reconstitution des années 1870, où, on voit ces hommes. Alors, c'est Louis Figuier, c'est un artiste qui a illustré des bouquins à l'époque. C'est assez marrant parce qu'il a reproduit dans différentes éditions d'un même livre les mêmes illustrations avec des vêtements différents pour les hommes qui représentent et les femmes qui représentent. Donc là, il est passé au mode esquimau, si je peux dire. Donc vous voyez, ils ressemblent quand même beaucoup à des Inuits. Alors juste un clin. Alors évidemment, maintenant on sait que ces considérations n'ont absolument aucune valeur. Il n'y a pas de lien particulier entre l'homme de Chancelade et les Inuits, évidemment. Mais quand même, un petit clin d'œil. À Chancelade, on a découvert cette pendeloque qui est assez bizarre. Vous voyez, il y a une tête de bison avec une espèce d'arête de poisson derrière. Et ce que vous voyez de part et d'autre de l'arête sont des petites figures gravées qu'on interprète comme des pingouins, quand même. Donc, gardez ça, quand même, en tête. Alors, une autre histoire du même genre, sur la Riviera, donc à la frontière entre la France et l'Italie, donc on a déjà les ancêtres de la race blanche, on a les ancêtres des Esquimaux, voilà que maintenant, on va avoir... les ancêtres des Africains. Et donc, à la frontière, il y a une série de grottes, d'ailleurs extraordinaires, si vous passez dans le coin, il y a un petit musée qu'il faut absolument aller visiter, qui est du côté italien. Donc, vous allez là-bas vers Ventimiglia. C'est absolument extraordinaire. Donc, dans le début du XXe siècle, il y a toute une activité de fouilles qui se développe dans ces grottes qu'on appelle les Balzi Rossi. Alors il y a plusieurs noms, le nom italien c'est Balzi Rossi, les Français dans les publications parlent de Baoussé Roussé, mais c'est à peu près la même chose. On parle aussi des grottes de Grimaldi. Donc il y a toute une série de grottes dans lesquelles en particulier la principauté de Monaco va développer des... Vous savez que le prince... Albert Ier était prince savant, océanographe, mais aussi archéologue, s'intéressait beaucoup à la préhistoire. C'est lui d'ailleurs qui a financé la création de l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Et il a d'ailleurs acheté une des grottes qui s'appelle la grotte du prince, et qui est un petit bout de la principauté de Monaco, en dehors, là-bas, de l'autre côté de la frontière italienne. Donc il y a des fouilles qui se développent dans toutes ces grottes sur une longue période entre 1900 et 1930. Il y a une quinzaine de ces cavités et on va trouver des squelettes paléolithiques. Alors à partir de 1800, je crois que la première découverte c'est 1872. Et donc, on trouve ces fossiles qui sont évidemment des fossiles d'Homo sapiens. On est toujours dans le Gravettien, hein, comme à Cro-Magnon. Et donc, on va appeler ces hommes les hommes de Grimaldi ou l'homme de Grimaldi. Et on a des sépultures qui sont très spectaculaires, comme celle que vous avez là, qui a été trouvée dans une grotte qui s'appelle la Grotte des Enfants, qui est datée entre 26 000 et 22 000 avant le présent. Sont des sépultures simples ou multiples. Il y a beaucoup de matériel archéologique. Cette sépulture double, en fait, on sait maintenant que c'est une sépulture qui a été faite en deux temps avec un adolescent qui a été enterré, et puis plus tard, on a ajouté le corps d'une femme âgée. L'adolescent, il a quand même une pointe de silex fichée dans la colonne vertébrale, ce qui montre que la vie n'a pas toujours été très douce sur la Riviera. Et alors, on étudie l'anatomie de ces fossiles, et dès le début du XXe siècle, dans des publications de Marcelin Boule, de Vernot et d'autres, les squelettes sont interprétés comme possédant des traits négroïdes. Et donc, on en tire la conclusion que soit il y a des Africains qui sont venus s'installer, il y a très longtemps, sur la Riviera, soit peut-être que c'est une zone d'origine. Alors on ne sait pas trop, est-ce qu'ils sont métissés avec les Cro-Magnons, mais je trouve ça assez étonnant quand même que, dans le fond, dans le début du XXe siècle, on ait un tel degré d'eurocentrisme. C'est-à-dire que non seulement on voit l'origine de notre espèce en Europe, mais on voit même l'origine de différentes, entre guillemets, races qui peuplent le monde dans un tout petit coin du midi de la France, entre la Dordogne et puis Vintimille. C'est quand même assez remarquable. Alors cet eurocentrisme, c'est quelque chose qui va continuer et qui va s'appliquer à différentes périodes du paléolithique. Alors, à la veille de la Première Guerre mondiale, juste au début de la Première Guerre mondiale, en Angleterre, on va mettre au jour des restes. Alors là, on n'est pas dans le Poétique supérieur, on est beaucoup plus loin dans le Quaternaire, mais on va mettre au jour des restes qui sont proposés comme des restes de l'origine très lointaine d'Homo sapiens. Donc là, on n'est plus dans la variation des races, on est vraiment dans le très très ancien. C'est un amateur qui s'appelle Dawson qui trouve ça dans le Sussex. Donc il y a des fragments de crâne. Ces fragments de crâne, ils montrent qu'on a affaire à une forme avec un grand cerveau, assez grand cerveau. Mais en même temps, des caractères primitifs de la mandibule, qui n'a pas de menton, qui a quand même des dents assez conséquentes. Et ça va, ce fossile, dans le fond, il va coller avec l'idée que l'on se fait de l'émergence lointaine de notre espèce. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, c'est quand même un peu le cerveau qu'on met en avant, si je peux dire, quand il s'agit d'êtres humains. Et donc, on a envie de trouver quelque chose qui soit primitif quand même, puisque c'est censé être un ancêtre, un chaînon manquant, mais en même temps, qui a un cerveau relativement grand. Et on sait maintenant que ce fossile de Pildon, en fait, est un faux. Donc c'est un faux fossile qui a été fabriqué par Dawson, évidemment, mais peut-être avec la complicité d'autres personnages. Il y a tout un panel de gens qui ont été, qu'on a soupçonné d'être impliqués dans cette histoire. Hein. Donc un paléontologue anglais très connu qui s'appelait Sir Arthur Case, mais j'ose à peine le dire, mais même Teilhard de Chardin, d'autres ont été plus ou moins... peut-être pas à bon escient, mais soupçonné d'avoir trempé dans l'affaire de Pildon. Toujours est-il que ce fossile de Pildon, il correspond tellement bien à ce qu'on attend qu'il va être considéré pendant une génération comme, même plus qu'une génération, comme, dans le fond, la preuve de l'origine en Europe de l'Homo sapiens. Alors vous avez un portrait là, de l'homme de Pildon paru dans un journal londonien de l'époque. Et alors cet homme de Pildon, il va donner lieu à des quantités incroyables de publications. Il y a plus de 250 publications scientifiques. Donc, pour vous dire que c'était quand même pris complètement au sérieux. En fait, on sait maintenant qu'il s'agit d'un crâne récent, probablement néolithique, quelque chose comme ça, qui a été associé avec une mandibule d'orang-outan dont on a limé les dents. Tout ça, ça a été badigeonné avec de la peinture rouge, enfin, etc. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, avec des méthodes physico-chimiques, qu'on va montrer que ce fossile n'est pas ancien, d'abord que la mandibule et le crâne ne vont pas ensemble, et puis que c'est quelque chose de récent. Mais encore une fois, ça a eu un impact extraordinaire, et en particulier quand, en 1924, on va trouver le premier Australopithèque. Alors l'Australopithèque, c'est l'anti-homme de Pildon. Hein. Il a une denture qui a des caractères qui annoncent les humains, mais il a un tout petit cerveau. Et donc ça, on ne va pas aimer du tout ça. Donc les gens comme Sir Arthur Keith, là, ce fameux paléanthropologue anglais dont je parlais, c'est des gens qui vont vraiment, dans le fond, s'opposer à l'interprétation par Raymond Dard de ces Australopithèques. Je vous ai mis à droite là un arbre phylogénétique des années 30, qui est fait par Sir Arthur Keith, qui est quand même quelque chose qui est assez remarquable. Je ne sais pas si vous voyez les dates qui sont à gauche de ce tableau, hein, mais on parle pour l'Oligocène de 600 000 ans hein, à l'époque. Hein, donc, vous voyez, on a avancé depuis. Et donc, vous voyez dans cet arbre, je ne sais pas si on se rend bien compte sur cette image, mais l'Australopithèque de Dart, voilà, cette espèce de brindille, en gros, pour qui c'est un singe, hein, c'est un grand singe un peu bizarre, il l'a mis là, et notre homme de Pildon, il est ici, hein, juste à côté de l'origine de toutes les races, entre guillemets, actuelles. Et donc, cette histoire, elle va se dégonfler dans l'après-guerre, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais quand même, après avoir donné lieu à tout un foisonnement de spéculations sur l'origine européenne d'Homo sapiens, avec en particulier le développement d'une théorie qu'on appelait la théorie des pré-sapiens européens. Les pré-sapiens, ben c'est Pildon, hein, c'est l'ancêtre des sapiens qu'on trouve quelque part en Europe, avec l'idée que, à côté des Néandertaliens et des ancêtres des Néandertaliens, il y a ces fameux pré-sapiens qui sont là. Alors, ce qui est un peu bizarre quand même, c'est que les Néandertaliens, quand on les trouve, on les trouve. Hein. C'est-à-dire, on a des crânes, des squelettes complets, à la Ferracie, à la Chapelle aux Saints, à la Kina, etc. Bon, les pré-sapiens, quand on les trouve, ils sont tout cassés quand même. Hein. Ils sont assez incomplet et voilà un site qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est le site de Fontéchevade en Charente, où on trouve ce bout de crâne, vous voyez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très bien conservé, et puis un petit bout de frontal à peu près grand comme ça, probablement d'enfant, et là, voilà, on spécule, on dit oui, il n'a pas de bourrelet susorbitaire. Et alors, évidemment, c'est un peu compliqué d'imaginer cette lignée fantôme dont on ne trouve jamais vraiment des traces spectaculaires. Alors, on a dit des choses et écrit des choses assez extravagantes là-dessus. Hein. On a dit que c'est trop intelligent pour se faire fossiliser comme les Néandertaliens. Hein. Donc, ils avaient échappé au piège de la fossilisation. Et puis, on a aussi inventé, si je peux dire, toute une industrie lithique qui aurait été propre à ces pré-sapiens. Hein, on appelait ça le Taillacien, du nom des Hésites Taillac. Alors bon, maintenant, on sait qu'à Fontéchevade, on a en fait des niveaux qui ont été mélangés et on pense qu'il s'agit de sapiens, en fait, de vrais sapiens, mais de sapiens récents qui ont été mélangés avec des niveaux paléolithiques. Je vous raconte tout ça, ça paraît un peu loufoque et très ancien. Quand je préparais ma thèse, dans ma thèse, il a fallu que je discute les pré-sapiens. Hein, moi, j'y croyais pas du tout, mais donc je vous parle pas du paléolithique quand même. Hein, on parle des années fin des années 70. Il y avait toujours les pré-sapiens étaient toujours là. Alors, on va les laisser tomber, puisque finalement, alors quand on a montré que Piltdown c'était un faux, bon là les pré-sapiens ont fait flop, on a abandonné ça. C'est très intéressant, il y a un traité de paléontologie humaine publié par Valois, Valois c'était le grand paléoanthropologue hein, des années 40, 50, 60. Et donc, il y a ce traité dont j'ai un exemplaire de paléontologie humaine, dans lequel il y a tout un chapitre sur les pré-sapiens. Et alors, après l'édition du livre, au moment où on le met en vente, paf, il y a le Piltdown est démasqué, si je peux dire. Et donc, il y a un petit feuillet qui a été introduit dans chaque exemplaire, qui a été collé à l'intérieur pour dire oui, récemment, des nouvelles recherches ont montré que ça tient pas vraiment la route. Enfin, bref. Donc, revenons à notre origine des sapiens, alors pas seulement en Europe, mais à l'échelle planétaire. Donc, en gros, quand même, on continue à mettre l'Europe au centre, mais on se préoccupe quand même de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, les histoires d'origine des Inuits et des Africains sur la Riviera, c'est quand même quelque chose qui a été assez vite écarté. Et donc, ce qui prévaut au milieu du XXe siècle, c'est un modèle d'évolution humaine qui est hérité, en fait, des modèles polygéniques. C'est-à-dire cette idée que les différentes, entre guillemets, races humaines actuelles ont des origines locales, et des origines locales, alors on ne parle plus de singes ou de formes non humaines, mais ce qu'on imagine, c'est qu'il y a des formes archaïques humaines qui ont donné naissance dans différentes régions du monde aux populations actuelles, et que c'est ça qui explique, dans le fond, les différences qu'on observe entre toutes ces populations. Alors, il y a un personnage qui a joué un grand rôle dans le développement de ce modèle. C'est un anthropologue allemand qui s'appelle Franz Weidenreich. Alors, je vous dis tout de suite que je considère Franz Weidenreich comme un des meilleurs anatomistes et paléanthropologues de son temps. Il a commencé une de ses premiers travaux, ça a été sur des néandertaliens de la région de d'Heringsdorf, Weimar, en Allemagne. C'est vraiment un anatomiste de première grandeur. Il est très très bon. Il est prof à Strasbourg à une époque avant la guerre de 14, à une époque où Strasbourg est en Allemagne. Alors évidemment, la guerre de 14, pour lui, ça va être pas terrible, parce qu'il va être chassé de son poste de professeur à Strasbourg. Il va retourner en Allemagne, on va lui trouver un poste à Francfort. Mais assez vite, il va avoir des ennuis avec le régime nazi dans les années 30. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est juif. Et puis surtout, il publie des articles. Il s'intéressait par exemple aux groupes sanguins des populations juives dans différentes régions d'Europe. En gros, il montre qu'ils ont les mêmes groupes sanguins que les gens qui vivent autour. Il publie ça dans des journaux allemands de l'époque qui sont lus par les dirigeants du parti nazi qui est en train de monter. Et puis, pour dire les choses simplement, il va être obligé de quitter l'Allemagne, de fuir l'Allemagne pour éviter de terminer dans un camp de concentration. Et il va se retrouver aux États-Unis alors qu'il est déjà assez... c'est pas un jeune homme à l'époque. Donc il va se retrouver, il va être recruté, je crois que c'est à Chicago, Il se retrouve là-bas, il ne parle pas un mot d'anglais, il est complètement comme un poisson hors de l'eau, il ne sait pas trop comment il va survivre. Et puis on lui propose de travailler en Chine, parce qu'en Chine, il y a une très grande fouille qui a démarré près de Pékin, dans un site qui s'appelle Zhugudian, où on trouve des Homo erectus. Et ces Homo erectus, à l'époque, on les dénomme Sinanthropus pekinensis. Hein, bon, dans la première moitié du XXe siècle, on n'est pas avare de, comment dire, d'espèces nouvelles. Donc cette espèce, elle a été créée par un scientifique canadien qui s'appelait Davidson Black. Et Davidson Black meurt de façon assez inattendue, assez jeune. Et donc on va proposer à Weidenreich de venir en Chine pour suivre ses fouilles et étudier le matériel qui sort de ses fouilles. Ce sont des fouilles financées par une fondation américaine. Et donc, Weidenreich, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, va publier une série de monographies absolument extraordinaires. Quand j'étais étudiant, je lisais ça me déprimait, parce que je me disais, je ne pourrais jamais faire aussi bien que ça. Et il va décrire avec un détail extraordinaire tous ces fossiles. Et alors, Weidenreich, il est persuadé de voir dans un certain nombre de caractères anatomiques de ces Homo erectus, des caractères dentaires, mais pas que, aussi des caractères faciaux, des traits anatomiques que lui croit être très fréquents chez les Asiatiques actuels. Et donc, il va, dans le fond, élaborer sur ce modèle en candélabre que je vous ai montré, hein, ces visions un peu polygénistes. Et donc, il va développer un modèle qu'il appelle polycentrique, qui est un modèle donc, qui prône une origine des populations actuelles au sein de formes anciennes. Alors, pour les Asiatiques, c'est ce qu'il appelle les synanthropes, hein, mais en gros, c'est pareil en Afrique, en Europe, un petit peu partout. Et donc, il voit cette émergence de ces lignées. Alors, vous voyez quand même qu'il y a des traits hein, entre ces lignées, donc il y a quand même des échanges. Parce que dans le fond, le problème qui va constamment se poser avec ce modèle polycentrique, c'est qu'on se demande comment, à la fin, on arrive à avoir une espèce qui est quand même, bon, même s'il y a des différences d'une région à l'autre du monde, c'est quand même une espèce humaine. Alors comment on passe de façon séparée de différents groupes à une seule espèce à la fin, c'est quelque chose qui est un petit peu baroque. Et donc il y a toujours eu ce problème. Donc en fait, tous les défenseurs de ces modèles polycentriques, ils ont toujours imaginé quand même plus ou moins des échanges. Alors au milieu du XXe siècle, il y a le biologiste Ernst Mayr qui, on a parlé de lui quand je vous ai parlé du concept biologique de l'espèce. Hein, donc c'est un de ces biologistes qui, au milieu du XXe siècle, ont forgé la notion, le concept d'espèce biologique. Donc Mayr, en 1950, publie un article en disant il y en a marre de toutes ces espèces, tout le monde, parce que pendant la première moitié du XXe siècle, tout le monde avait créé des espèces de hominines fossiles. Chaque fois qu'on trouvait une mandibule, paf, on lui donnait un nom nouveau. Et donc, Mayr, il dit, il y en a assez, on va regrouper tout ça, parce que dans le fond, tous ces fossiles qu'on a, par exemple, en Indonésie, en Chine, etc., en gros, c'est un peu la même chose avec des variations régionales. Donc, il va appeler ça Homo erectus, c'est comme ça que le terme va vraiment, comment dire, prendre racine. Mais on continue, donc, à spéculer sur cette origine polycentrique des populations actuelles. Alors voilà un autre personnage, Alice Ehrlichka, qui est un anthropologue américain, donc qui est toujours un petit peu dans la même idée, mais qui reconnaît donc des phases. Donc on parle de phases paléanthropiennes, archanthropiennes, paléanthropiennes, néanthropiennes. Donc l'idée, c'est que ces différentes lignées qui évoluent plus ou moins indépendamment les unes des autres, passent à travers les mêmes sorte de phase. Donc quelque chose, par exemple, cette phase paléanthropienne, c'est la phase qui a donné l'homme de Néandertal en Europe, mais en Asie, il y a quelque chose qui est, voilà, qui ressemble à Néandertal, mais qui est la version asiatique de Néandertal. Donc ça, c'est le modèle qui va avoir quand même un grand succès, qui est repris par tout un tas de gens. Alors, pour mémoire, je vous montre quand même Carlton Kuhn, qui est carrément un raciste assumé. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire ce qu'il écrit là à gauche à propos de la comparaison entre les aborigènes australiens et puis son ami et collègue chinois. Mais Kuhn produit un ouvrage qui s'appelle « L'origine des races » en 1962. On est quand même dans l'Amérique ségrégationniste. Il endosse complètement ses vues polycentriques. Alors ce modèle, il va évoluer plus tard et jusque dans les années. Il y a des gens qui ne sont pas complètement sortis aujourd'hui du modèle polycentrique, mais il va évoluer vers ce qu'on appelle le multirégionalisme, qui est une version, si je peux dire, adoucie du polycentrisme, avec des gens comme Milford Wolpoff aux États-Unis, Alan Thorne en Australie, pas mal de chercheurs chinois qui sont très... ça leur plaît bien, cette histoire d'origine des Chinois en Chine. Ce qui est différent entre ce modèle multirégional et le modèle polycentrique dur, si je peux dire, c'est ces histoires d'échanges entre ces lignées, parce que, encore une fois, à cette époque-là, donc là on est dans les années 80-90, on a de la génétique, on commence quand même à se rendre compte que c'est quand même un peu problématique cette histoire d'espèce qui apparaît indépendamment dans différentes régions du globe. Et puis aussi, dans ces périodes-là, on commence à accuser ouvertement ces multirégionaux ou polycentriques d'être des racistes Wolpoff avec son épouse Rachel Kaspari va publier un ouvrage qui est vraiment une espèce de plaidoyer pour le multirégionalisme, disant que non, ils ne sont pas du tout racistes. Parallèlement à ce... Alors, c'est encore une fois, c'est le modèle qui a été prévalent jusque dans les années 80 du XXe siècle. Mais parallèlement à ça, il y a quand même des gens qui commencent à le battre en brèche. En particulier, il y a un professeur à l'université de Harvard qui s'appelle William White Owens. Et William White Owens, il publie en 1973 une étude qui est la première étude statistique vraiment sérieuse des variations craniométriques chez l'homme. Donc, il est prof à Harvard, il a une fortune personnelle en plus. C'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'échanger avec lui, et qui est absolument délicieux. Il se promène dans des tas de collections dans le monde entier avec son épouse qui prend des notes pour lui. Et il mesure tous ses crânes et il publie ce bouquin, encore une fois, avec des outils analytiques statistiques qui sont d'une pointure très au-dessus de tout ce qu'on a fait avant. Et en gros, ce qu'il dit dans ce bouquin, c'est quoi ? C'est que, dans le fond... Et oui, il y a des variations d'une population à l'autre aujourd'hui, mais quand même, elles se ressemblent énormément. Et que donc, tous les hommes actuels représentent un ensemble qui est très homogène. Et en gros, il dit que c'est impossible que tout ça soit apparu de façon indépendante dans différentes régions à partir de formes comme l'homme de Néandertal ou d'autres hominines archaïques, parce que lui, il voit des différences entre ces hominines archaïques et, en gros, il dit que ça n'a pas de sens de vouloir les faire apparaître comme ça. Et puis aussi, on a des découvertes paléontologiques. Alors, au début, au Proche-Orient, avec en particulier des découvertes à côté des sites où on a des Néandertaliens, des découvertes de sapiens très anciens. Et j'ai mis là la photo de Bernard van der Merch, qui a fouillé pendant très longtemps à Djebel Kabzeh. Ce n'est pas le seul site hein, de la région où on a trouvé ces sapiens anciens. Mais en gros, ces découvertes, elles montrent quoi ? Elles montrent qu'on a des sapiens, en tout cas dans certains coins du monde, qui sont plus anciens que les Néandertaliens qu'on a en Europe ou qu'on a même dans ces régions-là. Alors donc, évidemment, c'est assez compliqué de faire émerger les sapiens de forme archaïque comme les Néandertaliens s'ils sont plus anciens que les Néandertaliens. Donc, voilà. Donc ça, ça vient un petit peu en écho aux travaux de William Whitehall Wells. Voilà, juste pour mémoire, une photo d'une sépulture de Kabzeh, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire comme site. On a des sépultures avec des objets de parure et on est à 90 000, 100 000. Il y a un autre site qui s'appelle Mougaret School où on est à 125 000, 130 000. Donc on est très, très avant les Néandertaliens terminaux qu'on a en particulier en Europe. Et donc tout ça, ça va créer une espèce de bouillon de culture et on va avoir donc dans les années fin des années 70, début des années 80, des gens qui vont commencer à dire toutes ces histoires d'évolution en candélabre avec des sapiens qui apparaissent à droite à gauche, ça marche pas. On a certainement un centre d'apparition des sapiens quelque part, et ces sapiens, ils se sont répandus sur la planète à partir de ce centre d'apparition. Alors un des premiers sur le plan paléontologique qui défend cette thèse, c'est un chercheur allemand qui s'appelle Günther Breuer, qui est à Hambourg et qui publie, alors malheureusement pour lui, il publie en allemand pas mal, et il publie aussi dans une revue hein, qui s'appelle Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, qui n'est pas toujours très lue par les chercheurs anglo-saxons, mais il développe ce qu'il appelle l'hypothèse euro-africaine. Alors, en gros, ce qu'il soupçonne, c'est qu'il y a une origine africaine des sapiens, et qu'ils sont arrivés par le Proche-Orient, donc des sites comme Kabzeh et School, et ont remplacé les Néandertaliens. Voilà un de ces schémas hein, de la fin des années 78, qui est très très clair, où il dit, voilà, les Néandertals, les sapiens, ça n'a rien à voir. C'est une graine qui va germer dans la tête de certains, comme vous allez le voir. Et puis, dans les années 80, donc pendant que Breuer continue à développer ses idées, on va avoir les premiers séquençages d'ADN sur des populations actuelles. Et il y a un article qui est publié dans Nature en 1987, qui est publié par Rebecca Kahn, Mark Stone King et Alan Wilson. Donc Alan Wilson, c'est le professeur, les autres deux sont ses étudiants à Berkeley. Et il publie pour la première fois un arbre connectant différents haplotypes d'ADN mitochondrial dans le monde. Alors l'ADN mitochondrial, je vous rappelle, c'est de l'ADN, c'est pas l'ADN des noyaux cellulaires, des chromosomes, c'est l'ADN qui est contenu dans des petites organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries, et c'est transmis, c'est un ADN très simple, et qui est transmis par les lignées maternelles. Donc c'est assez simple à interpréter, et donc c'est ce qu'ils font. Et en gros, ce que montre ce travail de Kahn, Stone King et Wilson, c'est que l'Afrique, c'est la région du monde dans lequel on a le plus de diversité de ces lignées, et que dans le fond, toutes les lignées qu'on trouve hors d'Afrique, c'est une espèce de groupe frère de lignées africaines. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est que très certainement, tous les hommes qu'on trouve en dehors d'Afrique, c'est une sorte d'échantillon de population africaine qui a quitté l'Afrique. Donc là, voilà un argument qui fait écho au travail de Breuer. Alors, Breuer, encore une fois, c'est relativement confidentiel. Par contre, cet article de Nature de Kahn, Stone King et Wilson va faire énormément de bruit. Donc voilà la couverture de Newsweek du mois de janvier 88. Et donc là, ça y est, c'est parti. On commence à parler vraiment de l'origine africaine de l'homme moderne. Alors, vous voyez, c'est quand même très teinté de tout ça, de considérations bibliques. Hein. On parle d'Ève africaine, on parle de jardin d'Éden, on parle de. Mais l'idée, c'est assez clair sur cette couverture. C'est que dans le fond, le fameux Adam et Ève démonogéniste, ce couple-là, il a existé en Afrique il y a très longtemps. Et puis, en 88, il y a deux chercheurs anglais, Chris Stringer et Peter Andrews, qui vont, dans le fond, rassembler toutes ces données. Qui sont des données paléontologiques et des données génétiques et qui vont proposer d'une façon très formalisée ce modèle d'origine africaine des hommes modernes. Donc c'est le fameux modèle Out of Africa. Voilà, il naît avec ce papier qui est publié dans Science. C'est pas vraiment un papier où ces gens-là donnent les résultats de leurs recherches. C'est une espèce de revue, de synthèse de ce qui se publie à l'époque. Alors, dans la suite dans les années qui suivent, il va y avoir de plus en plus d'études alors sur l'ADN mitochondrial, sur le chromosome Y, sur l'ADN nucléaire, qui vont constamment confirmer, dans le fond, ces conclusions du papier de Nature de Kahn, Stone King et Wilson, qui était un papier quand même qui avait été assez critiqué. Hein. Il y a des gens qui disaient non, ça marche pas, c'est parce que vous avez pas assez d'échantillons, c'est biaisé, etc. Mais là, voilà un travail. Donc là, on est dans les années 2000 hein, maintenant, un travail sur ces fameux lignées d'ADN mitochondrial. Voilà, tout ce qui est en vert là, ce sont des lignées africaines. Et vous voyez que les lignées en dehors d'Afrique. Eh bien, c'est les descendants d'un des haplotypes africains qui est sorti d'Afrique. Alors, comme vous le voyez, il y a des haplotypes qui sont retournés en Afrique, enfin en Afrique du Nord en particulier, mais c'est un retour, si je peux dire, à partir de l'Eurasie. Mais voilà, tout ça, c'est le monde entier, et ça, c'est l'Afrique. Donc, les lignées les plus diverses, les plus anciennes, celles qui sont ancestrales de tout le monde, elles sont là-bas. On va avoir exactement le même genre de résultats sur le chromosome Y. Alors, le chromosome Y, lui, c'est papa. Donc, l'ADN mitochondrial, c'est maman. On a exactement le même genre d'arbres, hein, avec là, ici, des haplotypes africains et là, des haplotypes en dehors. Et puis, quand on va étendre ça à l'ensemble du génome nucléaire, ça c'est un papier de Cavalli-Sforza de milieu des années 90, on va toujours retrouver ces mêmes arbres avec l'Afrique qui est le groupe frère de tout le reste avec une diversification de ces formes hors d'Afrique. Alors, il y a eu des tas d'études depuis, on pourrait passer des heures à parler de ça, qui ont confirmé ces résultats. Juste comme ça, au passage, je vous montre quand même une chose tout à fait remarquable. Alors, on ne parle pas ici de phylogénie, on regarde juste la diversité génétique de différentes populations. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que quand on s'éloigne de l'Afrique, on mesure en kilomètres hein, combien de distance il faut parcourir par voie terrestre, eh bien, on a une baisse de la diversité génétique. C'est ce qu'on voit sur ce diagramme. Donc, les populations où la diversité génétique aujourd'hui est la plus faible, c'est les populations qui sont les plus loin de l'Afrique, là-bas, en Patagonie ou dans des îles au milieu du Pacifique. Et plus on se rapproche de l'Afrique, et plus il y a de la diversité. Donc, tout ça, ça colle avec une origine africaine de notre espèce. Alors ce modèle, il est devenu, je pense aujourd'hui, le modèle prévalent. Alors on lui a donné différents noms, j'ai parlé de modèle, enfin j'ai parlé de Out of Africa, on a parlé ensuite d'origine africaine récente, Recent African Origin, mais c'est un peu toujours la même idée. Ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que même si on avait une origine africaine des populations actuelles, avec un remplacement des populations archaïques locales en dehors d'Afrique, il y avait un petit peu de flux génique entre ces populations archaïques et puis les populations migrantes venant d'Afrique. Concrètement, ça veut dire que ce n'est pas un remplacement total, et ça fera l'objet d'un de mes cours futurs, on parlera de ça, mais ça reste quand même assez anecdotique de mon point de vue. Mais quand même, les tenants du multirégionalisme, à un moment donné, on sautait sur ces résultats-là pour dire « mais en fait, vous voyez, on avait quand même raison, il y a une continuité régionale puisqu'on trouve un peu d'ADN néandertalien dans l'ADN des Européens actuels ». Et donc, voilà, ils ont essayé de développer un modèle qu'on a appelé un modèle d'assimilation. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu entre le modèle multirégional et le modèle Out of Africa, où on met l'accent sur le mélange. Hein. J'ai tiré cette image d'un blog de John Hawkes, hein, donc des gens qui essaient de vendre quand même l'idée que finalement, oui, c'est une origine africaine, mais que c'est un modèle réticulé, hein, c'est-à-dire c'est pas des lignes, c'est des lignes qui se croisent, qui se mélangent. Bon, pour dire les choses quand même de façon claire, je vous ai fait ce petit schéma qui vous montre, dans le fond, comment ces différents modèles se comparent les uns les autres. Donc, on a le modèle en candélabre extrême, style Weidenreich, où là, quasiment, il y a 100% de continuité hors d'Afrique, c'est-à-dire on va n'importe où hors d'Afrique et on va trouver des ancêtres locaux des gens qui vivent aujourd'hui en Europe, en Asie ou ailleurs. Et puis, à l'autre extrême, il y a le modèle Out of Africa dur, si je peux dire, avec une origine africaine et zéro contribution des populations archaïques locales dans le reste du monde. Et puis voilà, là, je vous ai placé un petit peu comme ça, au doigt mouillé, le modèle multirégional et le modèle d'assimilation. Donc, encore une fois, ce modèle d'assimilation, il se fonde sur l'idée qu'il y a un flux génique entre les populations archaïques locales et les migrants sapiens. Voilà, quand on place sur ce schéma la quantité estimée de contribution néandertalienne dans votre génome, on est là, c'est-à-dire on est à 2% de 0%, donc on est quand même très très près de l'origine africaine et très très loin de ces modèles, y compris du modèle d'assimilation. Alors tout ça, évidemment, ça a pris dans les années qui ont suivi ça s'est renforcé par un certain nombre de découvertes. Je passe très très vite sur l'identification en Afrique des plus anciens sapiens, là pour le coup à 300 000, donc là on est sûr qu'en dehors d'Afrique on n'a pas de sapiens à cette époque-là, et puis toute une variété de fossiles qui ont été découverts. Alors en Afrique de l'Est essentiellement, mais aussi un petit peu en Afrique du Sud, et qui dans le fond documentent cette évolution au sein de l'Afrique et avant une sortie d'Afrique. On verra les conditions de cette sortie d'Afrique dans un cours suivant. Donc une documentation paléontologique très robuste qui soutient ce modèle d'origine africaine. On a pas mal de gens qui travaillent alors sur des données génétiques ou paléogénétiques et qui, dans le fond, essaient de voir comment, en Afrique, a évolué notre espèce. avec l'idée qu'on a sans doute on a affaire à ce qu'on appelle des populations structurées, c'est-à-dire plusieurs grandes populations d'Homo sapiens qui ont sans doute échangé entre elles des gènes, des innovations. C'est un modèle qui est, j'ose à peine le dire, une espèce de multirégionalisme à l'intérieur de l'Afrique. C'est tentant, c'est possible. Il faut dire qu'on n'a quand même pas suffisamment de données paléontologiques et archéologiques pour vraiment identifier ces différentes lignées qui auraient évolué les unes à côté des autres pendant plusieurs centaines de milliers en Afrique. C'est plutôt des arguments d'ordre génétique. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que aujourd'hui, le modèle qui prévaut, c'est quand même un modèle d'évolution, de divergence entre le continent africain et puis l'Eurasie pendant plusieurs centaines de milliers d'années, avec au final une sortie. Et on verra que cette sortie d'Afrique de notre espèce, en fait, ce n'est pas une sortie, ce sont des sorties, même s'il y en a une qui est la bonne, si je peux dire, et qui va vraiment entraîner notre espèce partout à la surface de la planète, dans des régions comme l'Australie, où il n'y avait jamais eu d'hominines auparavant, ou dans les Amériques, surtout après la colonisation des hautes latitudes de l'Eurasie. Et évidemment, on discutera de ça énormément, la question de l'interaction entre ces migrants africains et puis les néandertaliens, les dénisoviens. Vous verrez qu'il y a aussi, on se pose la question de savoir si au sein d'Afrique, il n'y a pas à côté des sapiens aussi des équivalents, si je peux dire, des néandertaliens ou des dénisoviens qui sont quelque part dans certains coins d'Afrique. Donc on verra tout ça en détail dans les cours suivants. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette question des modèles d'apparition d'Homo sapiens. Alors, normalement, je ne donne pas de devoir à faire à la maison. Mais, exceptionnellement, vous pouvez aller ce soir sur Internet, vous regardez le sommaire de la revue Nature, et normalement, depuis à peu près une heure et demie, il y a un nouvel article qui a été mis en ligne, que j'ai co-signé avec un grand nombre d'auteurs, vous voyez, on est 29, et qui parle de l'origine d'Homo sapiens, justement, en Afrique, à un horizon qui est très lointain du point de vue chronologique. Donc là, on ne parle pas de sapiens anciens, on parle des ancêtres des sapiens. C'est le Piltdown africain, si vous voulez, mais là, c'est un vrai, ce n'est pas un faux, on ne l'a pas fabriqué. Et donc, je pense que vous en entendrez parler dans la presse dans les jours qui viennent, mais je vous recommande quand même, en rentrant chez vous, d'aller regarder cet article, et puis on en reparlera sûrement la prochaine fois. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.